La fin de la journée s'écoula sans incident. Après le dîner seulement, afin d'éviter toute chance d'indiscrétion, le duc prévint Hyacinthe d'avoir à remplir une malle et une valise. Hyacinthe était du voyage, ainsi que la femme de chambre d'Angélique. À 9 heures, tous les domestiques, sur l'ordre de leur maître, étaient couchés. À 10h10, le duc, qui terminait ses préparatifs, entendit la trompe d'une automobile. Le concierge ouvrit la porte de la cour d'honneur. De la fenêtre, le duc reconnut le landaulet de Jacques d'Amboise.
« Allez lui dire que je descends !»
ordonna-t-il à Hyacinthe.
« Et prévenez, mademoiselle !»
Au bout de quelques minutes, comme Hyacinthe n'était pas de retour, il sortit de sa chambre. Mais sur le palier, il fut assailli par 2 hommes masqués qui le bâillonnèrent et l'attachèrent avant qu'il eût poussé un seul cri. Et l'un de ces hommes lui dit à voix basse « Premier avertissement, monsieur le duc. Si vous persistez à quitter Paris et à me refuser votre consentement, ce sera plus grave. » Et le même individu enjoignit à son compagnon « Garde-le, je m'occupe de la demoiselle. » À ce moment, 2 autres complices s'étaient déjà emparés de la femme de chambre et Angélique, également bâillonnée, évanouie, gisait sur un fauteuil de son boudoir. Elle se réveilla presque aussitôt sous l'action des sels qu'on lui faisait respirer. Et quand elle ouvrit les yeux, elle vit penché au-dessus d'elle un homme jeune, en tenue de soirée, la figure souriante et sympathique, qui lui dit « Je vous demande pardon, mademoiselle. Tous ces incidents sont un peu brusques et cette façon d'agir plutôt anormale. Mais les circonstances nous entraînent souvent à des actes que notre conscience n'approuve pas. Excusez-moi. » Il lui prit la main très doucement et passa un large anneau d'or au doigt de la jeune fille en prononçant « Voici, nous sommes fiancés. N'oubliez jamais celui qui vous offre cet anneau. Il vous supplie de ne pas fuir et d'attendre à Paris les marques de son dévouement. Ayez confiance en lui. » Il disait tout cela d'une voix si grave et si respectueuse, avec tant d'autorité et de déférence, qu'elle n'avait pas la force de résister. Leurs yeux se rencontrèrent. Il murmura « Les beaux yeux purs que vous avez, ce sera bon de vivre sous le regard de ces yeux. Fermez-les maintenant. » Il se retira. Et l'hôtel de la rue de Varennes demeura silencieux jusqu'à l'instant où Angélique, reprenant toute sa connaissance, appela les domestiques. Et ils trouvèrent le duc, Hyacinthe, la femme de chambre et le ménage des concierges, tous solidement ligotés. Quelques bibelots de grande valeur avaient disparu, ainsi que le portefeuille du duc et tous ses bijoux, épingles de cravate, boutons en perles fines, montres, etc. La police fut aussitôt prévenue. Dès le matin, on apprenait que la veille au soir, comme il sortait de chez lui en automobile, D'Amboise avait été frappé d'un coup de couteau par son propre chauffeur et jeté, à moitié mort, dans une rue déserte. Quant à Mussy et à Caorches, ils avaient reçu un message téléphonique soi-disant envoyé par le duc et qui les contremandait. La semaine suivante, sans plus se soucier de l'enquête, sans répondre aux convocations du juge d'instruction, sans même lire les communications d'Arsène Lupin à la presse sur la fuite de Varennes, le duc, sa fille et son valet de chambre prenaient sournoisement un train omnibus pour Vannes et descendaient un soir dans l'antique château féodal qui domine la presqu'île de Sarzeau. Tout de suite, avec l'aide de paysans bretons, véritables vassaux du Moyen-Âge, on organisait la résistance. Le 4e jour, Mussy arrivait. Le 5e, Caorches, et le 7e, Amboise, dont la blessure n'était pas aussi grave qu'on le craignait. Le duc attendit 2 jours encore avant de signifier à son entourage ce qu'il appelait, puisque son évasion avait réussi malgré Lupin, la seconde moitié de son plan. Il le fit en présence des trois cousins, par un ordre péremptoire dicté à Angélique, et qu'il voulut bien expliquer ainsi.
« Toutes ces histoires me font le plus grand mal. J'ai entrepris contre cet homme, dont nous avons pu juger l'audace, une lutte qui m'épuise. Je veux en finir coûte que coûte. Pour cela, il n'est qu'un moyen, Angélique, c'est que vous me déchargiez de toute responsabilité en acceptant la protection d'un de vos cousins. Avant un mois, il faut que vous soyez la femme de Mussy, de Caorches ou d'Amboise. Votre choix est libre, décidez-vous. »
Durant 4 jours, Angélique pleura, supplia son père. À quoi bon? Elle sentait bien qu'il serait inflexible et qu'elle devrait, en fin de compte, se soumettre à sa volonté. Elle accepta. « Celui que vous voudrez, mon père, je n'aime aucun d'eux. Alors, que m'importe d'être malheureuse avec l'un plutôt qu'avec l'autre ?» Sur quoi, nouvelle discussion, le duc voulant la contraindre à un choix personnel. Elle ne céda point. De guerre lasse et pour des raisons de fortune, il désigna Amboise. Aussitôt, les bans furent publiés. Dès lors, la surveillance redoubla autour du château, d'autant que le silence de Lupin et la cessation brusque de la campagne menée par lui dans les journaux ne laissaient pas d'inquiéter le duc de Sarzeau-Vendôme. Il était évident que l'ennemi préparait un coup et qu'il tenterait de s'opposer au mariage par quelques-unes de ces manœuvres qui lui étaient familières. Pourtant, il ne se passa rien. L'avant-veille, la veille, le matin de la cérémonie, rien. Le mariage eut lieu à la mairie, puis il y eut la bénédiction nuptiale à l'église. C'était fini. Seulement alors, le duc respira. Malgré la tristesse de sa fille, malgré le silence embarrassé de son gendre, que la situation semblait gêner quelque peu, il se frottait les mains d'un air heureux, comme après la victoire la plus éclatante.
« Qu'on baisse le pont-levis »
dit-il à Hyacinthe.
« Qu'on laisse entrer tout le monde. Nous n'avons plus rien à craindre de ce misérable. »
Après le déjeuner, il fit distribuer du vin aux paysans et trinqua avec eux. Ils chantèrent et ils dansèrent. Vers 3 heures, il rentra dans les salons du rez-de-chaussée. C'était le moment de sa sieste. Il gagna tout au bout des pièces la salle des gardes, mais il n'en avait pas franchi le seuil, qu'il s'arrêta brusquement et s'écria
« Qu'est-ce que tu fais donc là, Amboise? En voilà une plaisanterie !»
Amboise était debout, en vêtements de pêcheur breton, culotte et veston sale, déchiré, rapiécé, trop large et trop grand pour lui. Le duc semblait stupéfait. Il examina longuement, avec des yeux ahuris, ce visage qu'il connaissait et qui, en même temps, éveillait en lui des souvenirs vagues d'un passé très lointain. Puis, tout à coup, il marcha vers l'une des fenêtres qui donnait sur l'esplanade et appela
« Angélique !»«
Qu'y a-t-il, mon père ?»«
Ton mari !»«
Il est là, mon père !» fit Angélique en montrant Amboise qui fumait une cigarette et lisait à quelque distance. Le duc trébucha et tomba assis sur un fauteuil, avec un grand frisson d'épouvante.
« Oh, je deviens fou !»
Mais l'homme qui portait des habits de pêcheur s'agenouilla devant lui en disant « Regardez-moi, mon oncle. Vous me reconnaissez, n'est-ce pas ? C'est moi, votre neveu, celui qui jouait ici autrefois, et celui que vous appeliez Jaco. Et rappelez-vous, tenez, voyez cette cicatrice. »
Oui, oui, je te reconnais, c'est toi, Jacques, mais l'autre.
Il se pressa la tête entre les mains.
Et pourtant, non, ce n'est pas possible. Explique-toi, je ne comprends pas, je ne veux pas comprendre.
Il y eut un silence pendant lequel le nouveau venu ferma la fenêtre et ferma la porte qui communiquait avec le salon voisin. Puis il s'approcha du vieux gentilhomme, lui toucha doucement l'épaule pour le réveiller de sa torpeur, et sans préambule, comme s'il eût voulu couper court à toute explication qui ne fût pas strictement nécessaire, il commença en ces termes. Vous vous rappelez, mon oncle, que j'ai quitté la France depuis 15 ans, après le refus qu'Angélique opposa à ma demande en mariage. Or, il y a 4 ans, c'est-à-dire la 11e année de mon exil volontaire et de mon établissement dans l'extrême sud de l'Algérie, je fis la connaissance, au cours d'une partie de chasse, organisée par un grand chef arabe, d'un individu dont la bonne humeur, le charme, l'adresse inouïe, le courage indomptable, l'esprit à la fois ironique et profond, me séduisirent au plus haut point. Le comte d'Andrézy passa 6 semaines chez moi. Quand il fut parti, nous correspondîmes l'un avec l'autre de façon régulière. En outre, je lisais souvent son nom dans les journaux, aux rubriques mondaines ou sportives. Il devait revenir et je me préparais à le recevoir il y a 3 mois, lorsqu'un soir, comme je me promenais à cheval, les 2 serviteurs arabes qui m'accompagnaient se jetèrent sur moi, m'attachèrent, me bandèrent les yeux et me conduisirent en 7 nuits et 7 jours par des chemins déserts jusqu'à une baie de la côte où 5 hommes les attendaient. Aussitôt, je fus embarqué sur le petit yacht à vapeur qui leva l'ancre sans plus tarder. Qui étaient ces hommes? Quel était leur but en m'enlevant? Aucun indice ne put me renseigner. Ils m'avaient enfermé dans une cabine étroite, percée d'un hublot que traversaient 2 barres de fer en croix. Chaque matin, par un guichet qui s'ouvrait entre la cabine voisine et la mienne, on plaçait sur ma couchette 2 ou 3 livres de pain, une gamelle abondante et un flacon de vin, et on reprenait les restes de la veille que j'y avais disposés. Et de temps à autre, la nuit, le yacht stoppait et j'entendais le bruit du canot qui s'en allait vers quelque havre, puis qui revenait chargé de provisions sans doute. Et l'on repartait sans se presser, comme pour une croisière de gens du monde qui flânent et n'ont pas hâte d'arriver. Quelquefois, monté sur une chaise, j'apercevais par mon hublot la ligne des côtes, mais si indistincte que je ne pouvais rien préciser. Et cela dura 2 semaines. Un des matins de la 9e, m'étant avisé que le guichet de communication n'avait pas été refermé, je le poussai. La cabine était vide à ce moment. Avec un effort, je réussis à prendre une lime à ongles sur une toilette. 2 semaines après, à force de patience, j'avais limé les barres de mon hublot, et j'aurais pu m'évader par là. Mais si je suis bon nageur, je me fatigue assez vite. Il me fallait donc choisir un moment où le yacht ne serait pas trop éloigné de la terre. Et c'est seulement avant-hier que, juché à mon poste, je discernai les côtes, et que le soir, au coucher du soleil, je reconnus à ma stupéfaction la silhouette du château de Sarzeau avec ses tourelles pointues et la masse de son donjon. Était-ce donc là le terme de mon voyage mystérieux? Et toute la nuit, nous croisâmes au large, et toute la journée d'hier également. Enfin, ce matin, on se rapprocha à une distance que je jugeais propice, d'autant plus que nous naviguions entre des roches derrière lesquelles je pouvais nager en toute sécurité. Mais à la minute même où j'allais m'enfuir, je m'avisai que, une fois encore, le guichet de communication que l'on avait cru fermé s'était rouvert de lui-même et qu'il battait contre la cloison. Je l'entrebâillai, de nouveau par curiosité. À portée de mon bras, il y avait une petite armoire que je pus ouvrir et où ma main, à tâtons au hasard, saisit une liasse de papier. C'était des lettres. Des lettres qui contenaient les instructions adressées aux bandits dont j'étais prisonnier. 1 heure après, lorsque j'enjambais le hublot et que je me laissais glisser dans la mer, je savais tout. Les raisons de mon enlèvement, les moyens employés, le but poursuivi et la machination abominable ourdie depuis 3 mois contre le duc Sarzeau Vendôme et contre sa fille. Malheureusement, il était trop tard. Obligé, pour n'être pas vu du bateau, de me blottir dans le creux d'un récif, je n'abordais la côte qu'à midi. Le temps de gagner la cabane d'un pêcheur, de troquer mes vêtements contre les siens, de venir ici, il était 3 heures. En arrivant, j'appris que le mariage avait été célébré le matin même.